La dernière fois, nous avons vu comment nous pouvions nous laisser guider par le Christ sur le chemin d'une vie d'adoration. Donc, je vous le rappelle, à travers évidemment l'exercice de la prière et aussi à travers l'exercice de l'obéissance à Dieu dans la vie concrète. Et j'ai insisté sur le fait que de cette manière-là, progressivement, jour après jour, nous pouvons arriver à nous décentrer un peu de nous-mêmes, et donc à purifier ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire notre cœur. Que chacune de nos journées soit d'abord un exercice de prière et d'abandon à Dieu. C'est donc le plus important. Et j'ai insisté sur le fait que nous pouvons vivre ça alors même que nous sommes encore très blessés psychologiquement, avec bien toutes sortes de fragilités humaines. Quand j'étais jeune prêtre à Tibériade, le centre d'accueil pour les gens atteints du sida, j'ai été confronté à ce milieu de la prostitution masculine, un milieu un peu plus blessé. Et j'ai connu des personnes comme ça qui ont été saisies par la grâce et qui, par la prière et par l'abandon à Dieu, ont pu vivre une certaine sainteté du cœur, alors même que humainement, ils restaient complètement détruits. Donc c'est possible. Simplement, si on regarde un peu, avec le temps, on s'aperçoit qu'il reste quand même une difficulté, c'est que nous n'arrivons pas toujours à vivre dans la prière, dans cet esprit d'abandon, et que si notre humanité n'est pas mise à niveau, il y a forcément, à un moment ou à un autre, des rechutes. On voit comme ça des jeunes convertis qui sont pleins de feu, de flamme, qui ont d'abondantes grâces, et puis à un moment, des rechutes. Ils sont, comme on peut dire, rattrapés par leur humanité. Et donc, on peut se dire qu'on ne peut pas économiser un travail sur l'humain qui fait que, progressivement, notre vie s'unifie. D'un côté, des temps de grâce où on est tout en Dieu et porté par Dieu, et puis d'autres moments où on est ramené à la dure réalité d'une humanité blessée. J'ai souvent l'image de la mer qui, quand elle est haute, couvre toute la plage, on ne voit pas qu'il y a des rochers ou toutes sortes de choses un peu, comment dire, c'est pas que du sable. Mais quand elle descend, la mer, eh bien, on s'aperçoit que il y a des choses qui étaient cachées. Eh bien, souvent, les choses remontent aussi avec l'âge adulte. On pourrait appeler cette guérison de notre humanité la rédemption du corps, pour reprendre l'expression de saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui permet donc un état d'harmonie, de pacification. Dont Jean-Paul II parle dans son livre sur mémoire et identité, il dit que avec les purifications qui correspondent à ce qu'on appelle dans la vie spirituelle l'étape purgative, l'homme ressent de moins en moins à l'intérieur de lui-même ces tensions, ces tiraillements. Il est moins exposé au risque de péché. C'est parce que son psychisme est lui-même purifié et guéri. Et la grâce, donc, pénètre de l'intérieur notre humanité, comme le levain qui pénètre la pâte. Et dans l'Évangile, le levain fait lever toute la pâte. C'est ainsi que la charité divine, progressivement, peut nous rejoindre et nous toucher dans tout notre être, et que nous pouvons sentir donc cette unité du cœur, de l'âme, du corps, et être moins, ressentir moins ces tensions entre la chair et l'esprit. Je dirais que dans la vie conjugale, c'est d'autant plus important que l'amour conjugal est un amour qui est appelé à se vivre dans toute la vie. Qu'on ne peut pas se contenter simplement de moments de communion pendant un temps d'adoration ou pendant des moments privilégiés de grâce, mais qu'on est appelé à s'aimer au quotidien avec toute notre humanité et donc à demander une rédemption de tout l'homme. Et alors la question, c'est de se dire, est-ce que le Christ est vraiment capable de sauver tout l'homme? Ou est-ce qu'il nous rejoint seulement dans notre cœur? Est-ce qu'il peut vraiment nous toucher dans notre vie psychique? Et s'il peut nous toucher, quel est le chemin par lequel nous arriverons à entrer dans cette... cet état de liberté et d'unité intérieure. Écoutez, la réponse, elle est simple. Dans l'Église, il y a une grande tradition de guérison, de purification, de guérison, de libération. Tradition qui a été oubliée, s'appelle la pénitence. Et cette tradition pénitentielle, elle est d'origine divine, elle est inscrite dans les Saintes Écritures. C'est Dieu lui-même qui l'a enseignée aux hommes. Et ici, nous voudrions vous montrer la grandeur et la beauté de cette tradition au cœur du carême. Et vous montrer comment cette tradition pénitentielle ne s'oppose pas évidemment à la psychothérapie, mais qu'elle l'intègre et la dépasse. Et que, je dirais, tout l'art pour notre époque serait de savoir allier les deux, mais en suivant d'abord cet esprit pénitentiel. Parce que dans cette tradition pénitentielle est la possibilité d'un renouvellement en profondeur de l'humanité, c'est-à-dire à partir du cœur qui est le centre de notre humanité. Il n'y a, j'espère que vous l'avez compris, il n'y a que le Christ qui puisse réellement purifier et guérir le cœur, précisément en nous sortant de nous-mêmes et en nous libérant de cet esprit de possession et de domination, ce gros moi orgueilleux, possessif, dominateur et jouisseur, comme disait le père Thomas Filet, qui est tellement gros qu'on ne le voit pas, mais qui contamine de l'intérieur de toute notre vie. Donc c'est le Christ qui nous purifie à la racine de notre vie, de notre agir, mais cette purification du cœur, qui permet une guérison radicale, elle est accompagnée aussi d'une purification de notre humanité psychique, comme je vais essayer de le montrer. Et donc, elle peut intégrer un travail psychologique en nous donnant de le vivre, dans le bon esprit, sachant faire un bon usage des outils de la psychologie moderne. Se laisser guider par Jésus sur le chemin de la pénitence. En ayant conscience que ce chemin de la pénitence, ce n'est pas simplement des actes de piété, ce n'est pas simplement une activité religieuse, entre guillemets, mais c'est un exercice qui s'adresse à tout notre être et qui peut se vivre dans toute notre vie. Un peu comme l'adoration. C'est pas simplement un temps précis, mais il y a une vie pénitentielle. Jean-Paul II a même dit un jour que la vie chrétienne était une longue pénitence. On ose à peine le dire, mais c'est vrai que l'esprit et la vie pénitentielle, c'est fait pour nous accompagner dans toutes les étapes de notre vie, parce que nous aurons toujours à être purifiés plus profondément. Donc il y a un art de vivre notre vie dans cet esprit pénitentiel, et en se laissant guider par Jésus, puisque c'est un art divin, c'est lui qui nous l'enseigne, cet esprit. Et cela selon trois axes essentiels. Trois axes que la tradition de l'Église a toujours mis en lumière et qui correspondent à la structure fondamentale aussi du sacrement de la réconciliation. Mais vous avez bien compris que j'entends ici pénitence d'une manière beaucoup plus large que le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence consacre une démarche pénitentielle qui, encore une fois, est faite pour être vécue tout au long de notre vie, à travers notre vie concrète. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a un appel de l'Esprit-Saint à la pénitence. Vous vous souvenez tous du message de Bernadette à Lourdes, pénitence, pénitence, pénitence. Et vous ne vous souvenez peut-être pas du contenu du troisième secret de Fatima. Où il nous est dit qu'à un moment, l'ange, il y a un ange qui avec une épée de feu dans la main gauche, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte, l'ange de Dieu, pénitence, pénitence, pénitence. Et sœur Lucie, peu de temps avant de mourir, en 2001, a dit prière et pénitence, avec une grande foi dans la puissance de Dieu, sauveront le monde. Et je pourrais vous citer quantité de documents du magistère expliquant qu'il n'y aura pas de renouveau de la vie chrétienne, de la société, sans passer par la pénitence. Notre monde a besoin d'être purifié. On a besoin d'entendre cet appel à la pénitence. Et on voit bien que c'est là aussi qu'il y a un combat très grand, mais en fait, il n'y a pas d'autre chemin pour purifier et guérir en profondeur notre humanité. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu l'appel à la pénitence et qui veulent... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner de la joie de faire pénitence tout de suite? Florence, dis-nous comment tu es heureuse d'entendre pénitence, 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 avec un ange qui tient une épée de feu. Ah oui, c'était ça le troisième secret de Fatima. Alors, je peux vous citer Pie XI aussi. La prière et la pénitence sont les deux forces que Dieu a données à notre époque. Elles sont là pour faire disparaître et expier la cause première et fondamentale de tout ce désordre du monde moderne, la rébellion de l'homme contre Dieu. On peut parler comme ça, on peut parler d'une autre manière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre humanité est malade et qu'elle a besoin de guérir. Alors, on va se mettre à l'écoute du médecin divin en essayant de montrer plus particulièrement comment cette vie pénitentielle peut se vivre dans une vie de couple. Mais évidemment, le propos est plus large et on essaiera de le montrer et de montrer aussi le bon usage, du bon usage de la psychothérapie. Alors, j'ai dit qu'il y avait trois axes essentiellement dans la pénitence. Les trois actes de l'homme qui se convertit sous l'action de l'Esprit Saint, comme dit le catéchisme, à savoir la contrition, l'aveu et la satisfaction. La satisfaction, c'est un terme technique qui signifie les pénitences au sens strict et restreint du terme, les œuvres de pénitence. Alors, nous commençons par ce qui est premier, qui s'appelle la contrition. Quel est le sens et, si je puis dire, l'intérêt de la contrition? Et, si nous y réfléchissons bien, le plus grave dans notre vie, ce n'est pas simplement les mauvaises actions concrètes que nous posons, mais c'est le fait que nous n'arrivions pas à sortir de cet engrenage, c'est-à-dire on se sent comme esclave du péché. On retombe régulièrement dans les mêmes fautes qui nous blessent, qui blessent l'autre. Et on ne voit pas tellement comment en sortir, parce qu'il y a comme quelque chose de plus fort que nous. La tradition de l'Église parle de l'attachement au péché. Un attachement intérieur, secret, qui fait qu'à la fois, bon, tous nous voudrions être débarrassés de certains mauvais comportements, mais en réalité c'est pas si simple que ça. De ce qu'il peut y avoir comme un lien secret, une complicité intime à ce péché qui se joue au fond du cœur, qui même échappe à notre perception. Quand Jésus dit « celui qui commet le péché est esclave du péché », je pense qu'il fait référence au fait que nous restons liés intérieurement. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, les péchés que nous commettons ont une racine dans le cœur au sens d'un attachement, plus souvent inconscient. C'est ce qu'il faisait dire à Sainte Thérèse d'Avila, à ses sœurs. Elle disait, bon, c'est normal qu'on commette des péchés, hein, le juste pêche sept fois le jour. Mais elle disait, mais changez de péché, quoi. Un moment. Parce qu'elle a conscience que si on retombe toujours dans les mêmes, c'est qu'il y a un lien. Et c'est ça qui est, en fait, qui est le plus nuisible pour l'âme. Mais comment on peut sortir de ce lien? Comment on peut être vraiment libéré du péché? Bien, en coupant le lien, évidemment. Et ça, c'est la contrition. Qui l'opère? Qu'est-ce que la contrition? Je vous lis ce que dit la définition qu'en donne le catéchisme. Quand elle provient de l'amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée parfaite. Cette contrition, c'est ce repentir d'amour qui nous fait détester nos fautes, cause de la souffrance qu'elles infligent au cœur de Dieu. Dans la contrition parfaite, il nous est donné, dans ce regret d'amour, il nous est donné de percevoir la réalité la plus profonde, la vérité la plus profonde du péché, c'est-à-dire que le péché est essentiellement une offense à Dieu. Il nous est donné de percevoir la souffrance du Christ, broyée à cause de nos fautes. Comme dit Jean-Paul II, c'est l'Esprit Saint qui établit la culpabilité du monde, en montrant le péché par rapport à la croix du Christ, c'est-à-dire dans cette perception que le péché transperce le cœur de l'unique innocent. Le cœur humain se convertit en regardant vers celui que nos péchés ont transpercé. Alors, nous pouvons avoir le sentiment d'être loin de ça. Mais ce n'est pas, la contrition n'est pas toujours quelque chose, la contrition parfaite, pas toujours quelque chose que l'on ressent très profondément. Mais je peux vous témoigner que cette grâce de percevoir la souffrance de Dieu, de percevoir l'horreur du péché en tant qu'il blesse le cœur même de celui qui est le seul juste, de celui qui n'est qu'amour, quand elle nous est donnée, cette contrition d'amour, quand elle nous est donnée à vivre pleinement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier de sa vie. Tellement ça broie en profondeur notre cœur. Vous voyez, l'expression contrition vient d'un mot latin qui signifie broyer. Sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur broyé. Broyé par quoi? Broyé par cette perception de l'horreur du péché qui fait qu'à ce moment-là, nous détestons vraiment, mais de tout cœur, ce péché. Et c'est à ce moment-là que se coupe le lien.
Je me rappelle une personne que j'accompagnais dans une retraite de guérison intérieure et qui me partageait qu'elle avait subi un avortement il y a longtemps. Et puis elle s'était déjà confessée de cet acte. Et en fait, pendant cette retraite, et en même temps, elle sentait encore une forte culpabilité en elle. Et puis, voilà, en même temps, elle voyait encore des circonstances qui l'avaient conduit à poser cet acte. Elle avait sans doute encore un certain attachement au péché. Et puis, au cours de cette retraite, il lui a vraiment été donné de contempler combien cet acte qu'elle avait posé il y a longtemps avait vraiment blessé profondément le cœur de Jésus. Et c'est du coup par ce don qui lui a été fait de pouvoir prendre conscience de cette souffrance qu'elle avait pu provoquer par cet acte qu'elle avait posé, contempler la souffrance de Jésus. Et bien c'est grâce à cette lumière qui lui a été donnée qu'elle a pu rentrer dans cette contrition profonde et être vraiment profondément libérée et guérie en profondeur.
Le catéchisme explique le mot contrition signifie que nos cœurs endurcis par l'orgueil sont brisés et broyés par la force du repentir. Autrement dit, vous voyez ici qu'on est vraiment au cœur de la conversion. Je me détourne du péché en même temps que je me tourne vers Dieu. La contrition, c'est essentiellement un acte d'amour pour Dieu qui me fait détester ce qui blesse celui que j'aime. Le pouvoir de se repentir d'amour est tel que l'Église a toujours enseigné que, au moment où je rentre dans ce repentir d'amour, en fait, mon péché est déjà remis. En toute logique, il n'y aurait pas besoin de se confesser, de recevoir le sacrement de réconciliation. Parce que cet acte d'amour pour Dieu purifie et libère complètement. D'ailleurs, on se sent dégagé en un instant. Quand on le vit, je dirais, avec force. Mais l'Église enseigne en même temps, je tiens à rassurer, que la contrition imparfaite, c'est-à-dire, on a certains repentirs, mais on reste très centré sur soi, et on ne voit pas le mal vrai du péché. Mais on voit que ça nous fait mal à nous. On n'est pas très heureux d'être comme ça, et donc on va se confesser en demandant au Seigneur de nous dégager de ce qui nous gêne, sans être bien conscient de qu'on est en même temps quelque part complice. Mais malgré tout, à ce moment-là, on reçoit le pardon des péchés. Mais vous comprenez bien qu'on peut recevoir le pardon des péchés sans pour autant couper le lien. Parce qu'il faut que ça bouge au niveau de mon cœur. C'est vrai, Dieu te pardonne les péchés que j'ai commis pendant ce mois-ci ou ces deux mois. C'est vrai, mais il ne peut pas nous détacher intérieurement de ce qui nous relie à ce mauvais pli, à cette mauvaise tendance, si nous ne rentrons pas dans ce sincère et profond repentir. Actuellement, je trouve que ce qui est gênant dans la confession, c'est que nous venons au confessionnal sans avoir même conscience qu'il y aurait un repentir plus profond à vivre. Alors qu'en réalité, l'Église ancienne, que le sacrement de réconciliation n'est pas là pour nous dispenser d'un repentir d'amour, en disant, bon, ben, écoutez, même si votre regret est très imparfait, malgré tout, Dieu est tellement bon que de fait, il vous pardonne vos péchés. Oui, mais ça ne dispense pas d'aller plus loin dans cette démarche de repentir. C'est-à-dire de confession en confession, eh bien, nous pouvons avoir l'espérance d'arriver un jour à détester vraiment ce péché que nous confessons depuis des années et en être vraiment libérés. En vous disant ça, je pense pardon que j'ai dû donner, nombre de fois que je m'en suis confessé avant de lâcher dans un mouvement de contrition d'amour, de lâcher tout ressentiment, toute rancœur, que ça a mis des années. Mais j'espérais de Dieu cette contrition d'amour depuis des années. Quand elle m'a été donnée, mais alors libération complète. Alors je ne dis pas que, encore une fois, que les choses nécessairement se passent en un instant comme je les ai vécues toujours. Mais il y a un chemin qui fait que, de fait, nous avançons dans le repentir. Nous ne nous contentons pas de confessions un peu formelles dans lesquelles on règle les comptes avec Dieu pour l'effacement des péchés, des derniers péchés en date. Donc là-dessus, il y a une pédagogie, il y a une sagesse à redécouvrir. Mais comment nous pouvons avancer sur ce chemin d'un vrai repentir d'amour qui nous libère en profondeur, c'est la question que nous devons nous poser maintenant. J'insiste simplement sur le fait que, à partir du moment où mon cœur est libéré de cet attachement, cette complicité secrète au péché, est-ce que la mauvaise habitude, la tendance, prenons l'exemple d'une personne qui a une tendance homosexuelle, tendance désordonnée. Elle peut prendre conscience que si elle a vécu, par exemple, comme j'ai connu des personnes qui allaient dans des boîtes homosexuelles et qui vivaient une vie vraiment désordonnée, elle peut prendre conscience de l'horreur de ce qu'elle a vécu. Couper complètement le lien, parce que moi j'ai connu des personnes qui vivaient dans ce milieu-là et qui à la fois disaient c'est l'enfer et en même temps y retournaient. Hein, le cœur de l'homme, il est compliqué. Vraiment malade. Bon, la personne coupe intérieurement le lien, il y a vraiment une libération, mais vous dites bien que la tendance homosexuelle elle-même, elle disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui disparaît? C'est l'attachement à la tendance. La personne garde un certain un pli psychique, mais il n'a plus de racines dans le cœur. Donc, peut-être que par, je dirais, pure faiblesse, avec une occasion et tout ça, elle va retomber ponctuellement, et ça n'a plus du tout la même gravité, puisque sa liberté profonde n'est plus engagée de la même manière. Donc, d'une guérison complète du psychisme sur Terre, on ne l'aura jamais, il faut être réaliste. Mais du moment que nos mauvaises tendances n'ont plus d'enracinement dans le cœur, la victoire, elle est là. Et progressivement, on voit que ça s'assainit de plus en plus, que les choses c'est comme, je dirais, une mauvaise plante, on a coupé la racine, elle meurt progressivement. C'est, enfin, je veux dire, il y a plus de... Ce sont des mauvaises passions qui n'ont plus de vie, qui restent simplement comme des clés psychiques. Anne-Claire, ici, tu as le témoignage du père canadien.
Je ne sais plus, je ne suis pas sûre du livre, mais je crois que c'est dans Le chemin de l'imperfection du père Desnoyaux qu'il raconte que le père Desnoyaux, donc, est prêtre. Et il raconte que, étant petit garçon, son père, tous les soirs, battait sa mère, et son père était très alcoolique. Et tous les soirs, en rentrant, il battait sa mère et éventuellement ses enfants. Et lui, dans sa chambre, il entendait, et puis un jour, il descend, parce qu'il voulait aller à la cuisine chercher de l'eau, il attendait que le calme se rétablisse. Et quand le calme s'est rétabli, il est descendu dans la cuisine, il a trouvé son père à genoux au milieu de la cuisine, qui disait « Jésus, miséricorde, Jésus, miséricorde ». Et du coup, il a décidé, en voyant son père comme ça, il a dit ben, « je serai prête pour donner cette miséricorde ». Donc son père, dans la souffrance où il était finalement, je pense que ça doit être un peu ça, il n'était pas attaché en profondeur.
Oui, on sent bien cet esprit de contrition. Moi j'ai connu des pénitents qui se confessaient régulièrement quand même, ils retombaient assez souvent. Mais on sent cet esprit de repentir d'amour et on sent que ce ne sont plus des péchés qui offensent le cœur de Dieu. C'est vraiment la pure faiblesse humaine auquel Jésus fait allusion quand il dit « l'esprit est ardent mais la chair est faible ». L'important, encore une fois, c'est de couper le lien intérieur. Dieu regarde le cœur d'abord. Donc il y a des personnes qui resteront tellement blessées par la vie que bon, l'alcoolisme... Hein, Ça ne se guérit pas comme ça en un instant. Bon, s'ils ne trouvent pas le chemin d'une guérison proprement psychique, ils peuvent garder ces tendances qui les rattrapent à certains moments, mais encore une fois, ça n'a plus le même pouvoir destructeur qu'ont des passions, enracinées dans le cœur. C'est pour ça que quand saint Paul dit « Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises » et que le crucifiement de la chair avec ses passions et ses convoitises, à proprement parler, c'est la contrition. Je meurs, c'est tendance mauvaise. Alors ici, vous voyez, on pourrait dire beaucoup sur toutes ces personnes qui voudraient être libérées de certains comportements humiliants, comme les grosses crises de colère, gros péchés d'impureté, mais qui ne vont pas, qui ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout du chemin du renoncement. Ils n'ont pas compris ce secret qu'est le repentir. Donc ils s'arrêtent à mi-chemin, éventuellement ils se confessent régulièrement, mais ils demeurent dépendants, avec, le piège donc de chercher un mieux-être psychique, sans passer par la conversion. Et sans donc percevoir cette question de la complicité. Ici, j'aimerais entendre Josiane. Est-ce que vous percevez le moment où la personne commence à prendre compte de l'engagement de sa liberté et de la nécessité?
Je dirais que c'est une question complexe, celle de la complicité, enfin, quand on en parle comme ça. Dans les parcours thérapeutiques, dans l'accompagnement des personnes, moi je me rends compte au départ, effectivement, quelquefois les personnes viennent pour avoir un mieux-être psychique, comme vous dites. Et au fur et à mesure qu'elles avancent, qu'elles se retrouvent elles-mêmes en profondeur, qu'elles retrouvent la personne qu'elles sont, qu'elles, au fur et à mesure aussi qu'elles peuvent se dire dans leur histoire, dans leurs blessures. Quelquefois, elles mettent au jour des blessures dont elles n'étaient pas conscientes. Tout cela les aide, je dirais, à avancer de plus en plus vers la profondeur d'elles-mêmes et petit à petit à oser regarder des choses qu'elles ne pressentaient pas. Et effectivement, quelquefois, grâce au travail thérapeutique, la personne peut prendre conscience que, eh bien, elle se rend complice malgré elle de quelque chose et que cette complicité a souvent pour origine une souffrance très très ancienne, souvent archaïque même, je dirais. Voilà, donc je dirais que plus on s'approche de l'inconscient, plus on chemine dans la conscience et plus ça peut aider à faire ce travail-là. Maintenant, c'est un travail aussi de longue haleine. Il faut un peu de patience. Mais en tous les cas, quand on le fait, après c'est un travail en profondeur, on n'a pas à y revenir. Mais il faut avancer aussi avec beaucoup d'humilité.
Josiane, vous m'aviez parlé aussi de ceux qui ne vont pas jusqu'à cette perception et cette reconnaissance, parce qu'elle reste simplement dans le désir de la compréhension.
Oui, ça peut être un des pièges, c'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir, essayer de comprendre, à jouer avec les idées psychologiques, enfin. Mais en même temps, bon, c'est notre travail, à nous thérapeutes aussi, de faire attention que la personne ne reste pas à la superficie. Ou si elle reste à la superficie, c'est à un moment donné, nous avons la responsabilité de la remettre face à son choix, hein, quel est le but de sa démarche. Effectivement, de rester à la surface et se faire plaisir à essayer de comprendre, à rester dans le mental, c'est pas très sain, il vaut mieux éviter. Hein, on ne se fait pas du bien, justement, on continue de s'enfermer et c'est pas le but du travail.
Vous voyez, dans la vie spirituelle, il y a du plus et du moins. Il y a sûrement des personnes qui, sans connaître Dieu, parce qu'elles sont humbles, qu'elles ont un vrai souci en fond d'elle-même de conversion, même si elle ne pourrait pas prononcer le mot, mais en tout cas un souci de se changer elle-même, il y a sûrement des personnes qui parviennent à un certain renoncement à la complicité, vous voyez, sans se situer directement face à Dieu. Mais c'est seulement face à Dieu qu'on prend en même temps, qu'on perçoit vraiment toute l'horreur du péché, vous voyez, il y a un plus dans la contrition d'amour qui fait que on peut vraiment on regrette pas à cause de soi, mais on regrette à cause de Dieu dans un acte d'amour qui est qui a une puissance, voyez, purificatrice plus grand que tout. Il y a une forme de remords centré sur soi, voyez, qui, dans lequel on ne cesse pas de se regarder, et dans lequel on risque de tomber dans toute forme de mauvaise culpabilité, qui nous empêche aussi à ce moment-là de parvenir à un vrai repentir. Mais précisément, vous voyez là. La personne qui tombe dans une culpabilité morbide, on va dire, dans lequel il y a une sorte de mécontentement d'elle-même continuel, mais sans vrai repentir par rapport au péché, le sacrement de pénitence aide en réalité à sortir de cette mauvaise culpabilité, en nous remettant devant Dieu, en nous aidant à ne plus rester centrés sur nous-mêmes, et donc en nous aidant à rentrer dans cet véritable esprit de conversion qui fait qu'au lieu de rester sur le constat des péchés que l'on commet continuellement, et de rester dans une sorte de découragement par rapport à nous-mêmes, on revient de plus en plus tout de suite vers Dieu en lui demandant pardon. Et de cette manière-là aussi, on arrive à éviter bien des souffrances qui sont liées au fait qu'on se juge, qu'on se condamne soi-même. Alors que dans le regret d'amour, il ne s'agit pas de se condamner soi-même, il s'agit de demander pardon à un ami qu'on a blessé, en revenant tout de suite vers lui. Écoutez le catéchisme. Si les fidèles se reconnaissent coupables de quelques fautes, qu'ils s'en accusent aussitôt devant Dieu et qu'ils lui demandent très humblement pardon. Voyez, vivre nos fautes devant Dieu, revenir vers Dieu en demandant pardon, et ensuite on se relève, on continue son chemin et on reste plus dans la culpabilité. Voyez, on a accusé le christianisme de favoriser la culpabilité, alors qu'en réalité, c'est un fait que plus on se confesse, et moins on se culpabilise, si on se confesse bien. Je ne sais pas si j'arrive à bien l'expliquer. Josiane, vous auriez quelque chose à dire par rapport à ça? La culpabilité. C'est un peu votre domaine?
C'est un peu mon domaine.
Comment vous définiriez une culpabilité morbide?
Je sais pas.
Jugement sur soi.
L'enfermement de quand on...
Un jugement sur soi-même qui fait qu'on se condamne soi-même.
Oui, ça c'est une culpabilité morbide.
Oui.
Ouais. Ce sont les impasses, je dirais, des moments traversés qu'on peut appeler. Langage psychologique et la pulsion de mort, en fait. Il y a des moments où vraiment, vous dites, les racines sont coupées, où les racines ne sont pas alimentées, et les personnes s'enferment, effectivement, ce risque-là. Dans une forme de culpabilité, et là aussi, c'est le fait de pouvoir dire cette culpabilité, de pouvoir aussi être entendu, qui va permettre à la personne, de petit à petit, de trouver un chemin de vie.
Quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on a un ami vraiment cher et qu'on l'a déçu, qu'on l'a blessé et qu'on revient vers lui pour lui demander pardon, on n'est pas à se regarder le nombril. Là. On souffre à cause de l'ami et une fois qu'on s'est réconcilié avec lui, ben voilà, on laisse tomber. Tandis que si on est sans cesse à regarder l'état dans lequel on est et qu'on n'accepte pas de se voir aussi faible et lamentable, c'est là que on tombe dans quelque chose qui nous détruit nous-mêmes, qu'on peut appeler la mauvaise culpabilité. Voyez, le danger qu'il y aurait quand on commet une faute, non seulement de rester centré sur soi, mais de revenir tout de suite, au lieu de revenir tout de suite vers Dieu, se tourner vers Dieu, de se laisser aller continuellement à ces formes d'auto-analyse, voyez, du style, ah ben c'est pas étonnant que je retombe là-dedans avec le père et la mère que j'ai eu, quoi. Donc à ce moment-là, quelque part, on se justifie et puis on reste à se regarder, alors qu'il y aurait une attitude beaucoup plus simple. C'est sans juger la part de responsabilité que j'ai dans l'acte, de tout de suite revenir vers Dieu en disant « Pardon mon Dieu, d'avoir offensé », et puis d'accueillir cette miséricorde, et puis à ce moment-là, de fait, Dieu, il oublie nos péchés, et il nous demande de tourner la page et de continuer. Il ne faut pas attendre la confession pour revenir à cette attitude, voyez, de repentir, qui peut se vivre au quotidien, et qui nous évite bien des souffrances inutiles. Comme aussi bien des pièges d'auto-justification.
Enfin, les pièges d'auto-justification, c'est aussi une forme d'enfermement. Enfin, c'est-à-dire que quand on est dans le refrain, avec les parents que j'ai eus, ou là, il y a comme une revendication. Et s'il y a une revendication, c'est qu'il y a encore une souffrance derrière, qui demande à être mise au jour, en fait. Hein? Donc il faut vraiment être très vigilant et écouter, voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis dans la revendication encore? Qu'est-ce qui fait que je dis que c'est de la faute de mes parents? Là, il y a quelque chose qui demande à être éclairé.
Moi, je trouve que j'ai l'image d'un vitrail. Et on se rend compte qu'on est fait vraiment pour faire passer la lumière du Seigneur et que on est finalement dans notre place à partir du moment où on laisse passer cette lumière. Et le péché, ben, je trouve que c'est un peu comme s'il y avait du noir de bougie qui était passé sur ce vitrail. Et alors finalement, ben, dès qu'on peut se retourner et se nettoyer finalement, on sent qu'on se restaure et qu'on redevient transparent. Et ça évite aussi de rester dans la culpabilité finalement. Qu'on sent bien qu'on est fait pour laisser passer cette lumière.
Ce qu'a dit Josiane sur la souffrance, c'est évident que ce réflexe d'analyse psychologique qui est devenu le nôtre, il renvoie aussi à un chemin de libération et de guérison, notamment par rapport aux parents. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, vous voyez, qu'on est un peu piégé par ce réflexe psychologisant qui fait qu'on rate de rentrer la simplicité, vous voyez, d'une demande de pardon. Qui n'a pas besoin d'analyse pour se faire, c'est-à-dire je ne cherche pas à voir jusqu'où ma liberté est engagée, je me tourne tout de suite vers Dieu, je lui demande pardon et je laisse sa miséricorde me rejoindre et c'est ça qui m'évite encore une fois bien des tourments intérieurs liés à ces jugements sur soi que l'on pose. Comme dit Saint Jean, même si notre propre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc il nous libère de cette condamnation intérieure. Condamnation intérieure qui est actuellement beaucoup refoulée, mais qui n'en est pas moins présente. Voyez, je pense que l'attitude agressive vis-à-vis de l'Église, sur des questions comme l'avortement, est liée à cette culpabilité refoulée. Et c'est évidemment pas le refoulement qui permet de sortir d'un profond mal-être, qu'on le voit, parce qu'il y a beaucoup de pathologies au niveau psychologique qui découlent de ce refoulement. Le vrai chemin de libération de la culpabilité, je le redis, c'est le repentir. Mais apprenons à nous confesser devant Dieu, regardant vers celui que nous avons transpercé. Pour bien comprendre certaines tendances désordonnées, si elles sont rattachées à des blessures, ben c'est évident que la psychothérapie peut aider. C'est là qu'il ne faut pas avoir peur de gratter un petit peu, parce que c'est la question qu'a bien posée Simone Paco, hein. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on t'a fait? Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas que moi qui suis victime et l'autre qui est coupable. Là aussi, j'ai mal réagi au mal qu'on m'a fait. Mais pour comprendre comment j'ai mal réagi, j'ai développé certaines tendances, on va dire, mortifères, en tout cas tendances désordonnées, plus on verra ce qui est à l'origine et plus on prendra conscience, on pourra prendre conscience de sa propre responsabilité. À partir du moment où on prend conscience on comprend mieux, on a un besoin de comprendre, on comprend mieux d'où vient cette mauvaise tendance, ne pas rester, vous voyez, si j'avais eu un autre papa, une autre maman, à ceci, pas rester non plus dans une auto-analyse continue, mais d'arriver à franchir l'étape suivante qui est celle du repentir. On perçoit là où notre liberté s'est engagée, on perçoit pourquoi, on sait bien, on a un besoin de comprendre, mais ensuite il faut passer, faut pas rester là-dedans, parce que si on reste dans le simple besoin de compréhension, on ne va jamais pouvoir entrer dans cette, je dirais, démarche beaucoup plus simple et beaucoup plus radicale, qui est la demande de pardon à celui que nous blessons par, par notre complicité à nos passions mauvaises. D'ailleurs, je suis en train de penser en vous disant ça, que dans les moments de dans ces grades de contrition, où on voit le péché en tant qu'il blesse le cœur de Dieu, il nous est donné en même temps de voir vraiment notre part de liberté là-dedans. Et ça, c'est une très grande grâce que Dieu nous donne la lumière sur notre part de vraie responsabilité.
Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans... Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans, dans cette recherche. C'est pas une recherche intellectuelle pour comprendre. En fait, je m'en fiche un peu de comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, comment faire face à ces souffrances, que rester dans une compréhension qui reste intellectuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est le va-et-vient. Moi, ce qui m'a aidé dans la thérapie, c'est de travailler au niveau spirituel en parallèle et en permanence. Et pas rester à essayer de comprendre sans voir en quoi ça impliquait ma vie et le changement dans ma vie et ma relation à Dieu. Donc un aller-retour permanent.
Moi, j'ai pensé longtemps que ma femme se faisait beaucoup de nœuds au cerveau. Et en même temps, je dois témoigner que c'est justement la grâce du mariage, c'est que j'ai trouvé qu'elle faisait du nœud au cerveau. Et puis en même temps, on voit bien depuis le début de l'enseignement que les choses sont drôlement subtiles. Et alors effectivement, ça peut être un jeu intellectuel, mais quelque part, il y a un moment où on comprend qu'il y a des choses qui... Voilà, tout est articulé, enfin voilà, c'est tout ce qui a été expliqué. Mais moi, pour moi, ça m'a paru très extérieur pendant longtemps. Et je trouve que c'est important de souligner qu'il... Il y a un moment, à force de, non pas intellectualiser les choses, mais à force de côtoyer des gens qui se préoccupent de réfléchir dans cette perspective-là, ça m'a obligé moi aussi à réfléchir, à me dire, tu serais peut-être un peu simpliste dans ta façon d'aborder les choses.
Alors, nous avons mis en évidence la grandeur, la force de la contrition. Il apparaît en même temps évident que c'est quelque chose qui nous dépasse, hein, que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes spontanément à cause du péché originel. Nous ne pouvons pas entrer comme ça par nous-mêmes dans un vrai repentir d'amour. La question, c'est qu'est-ce qui peut favoriser cette entrée dans une vraie vie de repentir. Qu'est-ce qui nous empêche de voir le péché dans sa vraie lumière, c'est-à-dire comme offense à Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de voir notre vraie responsabilité, le vrai engagement de notre liberté, nos complicités, si ce n'est l'orgueil en définitive. Si ce n'est le fait que nous voulons préserver une certaine image de nous-mêmes et pouvoir nous continuer à nous complaire en nous-mêmes. Personne n'aime avoir sa faute. Qu'est-ce qui va nous aider à rentrer dans une plus grande attitude de vérité et en même temps donc à nous décentrer de nous-mêmes, si ce n'est le chemin de l'humilité? À ce sujet-là, l'Église dit qu'au mal de l'orgueilleux, il n'y a pas de guérison. L'Écriture dit qu'au mal de l'orgueilleux, il n'y a pas de guérison. Mais si on prend les choses positivement, c'est dans le Siracide. Si on prend les choses positivement, ça veut dire que le chemin de la guérison, c'est, ça passe par l'humilité. Dieu donne aux humbles sa grâce qui est l'écriture. Et quel est l'exercice d'humilité que Dieu nous propose de vivre pour, je dirais, sortir de notre aveuglement et pour entrer dans une vraie contrition d'amour, si ce n'est cet exercice de la confession. C'est ici qu'il faut redécouvrir la valeur et la force de l'aveu. La confession, à proprement parler, c'est ce qu'il y a de plus pénible dans le sacrement. C'est quelquefois pénible d'entendre le prêtre parce qu'on a l'impression de ne pas être compris, mais c'est encore plus pénible d'avoir à dire les choses, d'avoir à les avouer. Mais en même temps, c'est ce qui dépend le plus de nous. Un exercice pénible, amer, mais dans lequel notre liberté peut s'engager. Autant je ne peux pas susciter de moi-même un repentir d'amour, autant la démarche de la confession dépend de moi. Jusqu'où je vais aller dans l'aveu.
Est-ce que tu peux faire 5 minutes de pause pour qu'ils se détendent?
Ah, qu'ils se détendent, ouais, 5 minutes de pause. Non, on pourrait faire un exercice de confession collective, publique.
Eh bien, on t'imite. Tu nous montres le chemin.
Pas une histoire drôle à leur raconter. Vous savez, il y avait un prêtre qui doutait de l'authenticité des visions qu'avait sœur Faustine, sainte Faustine, en Pologne. Et alors, il a voulu poser la question piège. Il lui a dit, demande à Jésus de me dire quel est le dernier péché que j'ai confessé. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'a répondu le Seigneur?
Hein?
Dis-lui que je l'ai oublié.
Ouf.
Ça soulage, hein?
Géraud avait envie de faire des exercices physiques.
Un petit chant, Géraud ?
Debout.
Un grand kyrillé joyeux.
le Seigneur lui répond, voyez le Seigneur est bon. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit, ne manquera de rien. Écoute-le et recherche la paix, en lui fais ce qui est bien. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur.
J'introduis cette question de la confession, puisque certains pourront peut-être sentir le besoin de se confesser pendant cette journée. Enfin, j'essaierai de me rendre disponible. Il y a donc dans la pénitence un exercice qui dépend de nous, et dont nous aurions tort de ne pas profiter pleinement. Se confesser, c'est un exercice auquel on ne s'appliquera jamais assez, et qui produit progressivement son fruit. Je veux dire que par cet acte d'humilité, par cet exercice d'humilité, nous nous offrons à la fois à la lumière, Dieu donne sa lumière aux humbles, dit l'Écriture, il enseigne les humbles. Et en même temps, par cet acte d'humilité, nous nous détournons un peu de nous-mêmes. Nous brisons notre orgueil nous-mêmes, autant que ça dépend de nous. Et donc, nous nous préparons à regarder les choses plus face à Dieu que face à nous-mêmes. Personnellement, les grâces de contrition que j'ai reçues sont toujours venues après un aveu. Et de fait, dans la confession, on se confesse avant de dire l'acte de contrition. L'acte de contrition, vous le connaissez, hein, « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. » Mais cet acte de contrition, donc, il est précédé par un exercice, et un exercice que nous faisons comme nous pouvons. Nous n'avons pas à confesser tous nos péchés, nous ne les voyons pas tous. Nous avons à confesser ce qui nous est donné de voir. Mais vous comprenez bien que de confession en confession, on rentre de plus en plus dans la lumière, et on rentre de plus en plus dans cette attitude de pardon à un ami, qui est très différent du fait de se raconter. Nombre de gens qui se racontent à leur, à leur coiffeur, hein, ou qui se racontent au téléphone à des amis, qui peuvent dire des choses même très intimes, mais qui ne rentrent pas dans une véritable attitude de confession. De confession, une attitude dans laquelle on est précisément dans cette humilité de reconnaître notre part de... On est là face à notre part de liberté, de responsabilité dans le mal qui est fait. Il y a des personnes qui se racontent pour se libérer, elles ont besoin de parler. Puis il y a des personnes qui font vivre dans une attitude de vérité parce qu'elles sont conscientes du besoin qu'elles ont de cet exercice d'humilité. Écoutez l'Écriture. c'est Jacques. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Étonnant cette expression, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça veut dire qu'il y a une attitude de confession qui peut se vivre aussi même en dehors du sacrement. J'espère pas vous choquer en disant ça. Mais de même que le repentir peut se vivre au quotidien, mon Dieu, je te demande pardon de t'avoir blessé, d'avoir blessé ton cœur, hein, à travers des petites fautes dont on prend conscience, donc on revient tout de suite vers Dieu. De même que le repentir peut se cultiver au quotidien, de même il y a une attitude de vérité, de confession, qu'on peut cultiver dans nos relations aux autres. Écoutez le catéchisme. Romain, l'expérience prouve que rien n'est plus propre à réformer les mœurs des personnes corrompues que la confidence réitérée de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions à un ami sage et fidèle qui peut les aider de ses services et de ses conseils. On ne peut pas vivre l'exercice de la confession dans le sacrement tous les jours, mais il y a une attitude de vérité, de reconnaissance de nos fautes, tout simplement, qui peut se vivre avec un ami sage et fidèle. Alors avec Anne-Claire et Philippe, on a beaucoup parlé de la question de savoir si cet ami sage et fidèle pouvait être le conjoint dans le cadre du mariage. Est-ce que quand on retombe dans certaines fautes et tout ça, mais même que l'autre les voit, est-ce qu'il est bon de dire, ben, tu vois, je suis encore retombé là-dedans, ben, je t'en demande pardon, mais dans un esprit d'un exercice d'humilité que l'on vit, dans une certaine transparence avec l'autre, ou est-ce que c'est un exercice trop dangereux? La reconnaissance du péché d'adultère, moi, qu'on puisse dire, c'est que c'est un exercice dangereux. Ça demande de part et d'autre une certaine maturité humaine et spirituelle, mais c'est évident que quand ça peut être vécu dans le Seigneur, ça peut aider grandement à un chemin de libération et de guérison distinct et complémentaire du sacrement.
Je pense que c'est pas une règle. Mais je crois que c'est bien de pouvoir y arriver progressivement. Mais c'est pas une règle parce qu'il y a toujours le risque de la domination de l'un sur l'autre, enfin ce qu'on disait au début, ce que vous évoquiez au début. Et donc on peut pas en faire une règle. Mais c'est vrai que honnêtement, nous on se le dit beaucoup, Philippe et moi, on s'aide énormément, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec lui qu'il faut être prudent. Il n'y a pas de règle générale dans ce domaine.
C'est vrai qu'on peut rentrer dans une relation de cœur et d'intimité qui fait que ça renforce quelque chose. Enfin, voilà, c'est vraiment la grâce du mariage. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui ne peuvent pas le faire ne le sont pas dans la grâce du mariage. Je suis aussi prudent là-dessus.
C'est-à-dire, c'est la grâce du mariage au sens où se marier, c'est marcher ensemble vers Dieu. Mais c'est un peu un idéal. Moi, je connais très 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 peu de couples qui vivent cet idéal d'accompagnement mutuel, pas dans des conseils, hein, mais dans cette attitude de vérité, qui fait qu'on grandit en humilité l'un devant l'autre.
Je ne trouve pas que ce soit un problème de conseil. C'est beaucoup plus un conseil, un problème de se porter, de prier l'un pour l'autre. Quand je n'arrive pas à prier, c'est, je dis à Philippe, allez, tu prends le relais, puis inversement, ou de se soutenir, ou alors quand on vraiment il y a une grosse difficulté, de pouvoir compter sur la prière de l'autre. C'est plus se porter mutuellement dans la prière que de se donner des conseils.
D'accord.
Cécile.
Quand j'ai fait cette expérience avec le Père pendant 9 ans, quand on travaille ensemble à l'Hôtel Dieu, et effectivement, je pense que ça n'a pas posé de problème parce que c'était dans l'amour. Enfin, c'est la qualité d'amour avec lequel on le dit. Laquelle on fait la remarque, enfin, je crois que ça, par contre j'étais quelquefois un peu, par rapport à ce qu'on me disait, quelquefois un peu brutal, et dans mes réponses, et je demandais pardon après, je m'en excusais, et le Père, lui, m'a toujours dit non, parce que j'ai vraiment senti que cette qualité d'amour, quoi, donc je n'ai jamais été blessée. Je ne sais pas, vous sauriez mieux dire que vous, comment on est arrivé à vivre pendant 9 ans une relation de totale vérité. Hein, je crois que tout ce que. Je ne sais pas, je suis sûre que ça va
mieux expliquer. Cécile et moi, on s'est accompagnés l'un l'autre. Elle me voyait vivre. L'avantage dans le mariage ou dans un travail d'équipe, puisqu'elle travaillait avec moi en aumônerie d'hôpital, elle me voyait 6 jours sur 7. L'avantage, le grand avantage, c'est que on voit l'autre au quotidien. Et dans ce qu'il peut reconnaître comme manquement, en même temps, comme on est témoin et que nul n'est bon juge sur soi, sans qu'il y ait à proprement parler de conseil, on a aussi besoin du regard de l'autre. Ça fait partie de l'exercice d'humilité que d'accepter de se confronter au regard de l'autre sur ce qu'on fait. Et donc il y a une possibilité de croissance au quotidien, d'une vérité sur soi qui naît aussi de cette confrontation avec l'autre et qui fait qu'on arrive à se corriger l'un l'autre et à rentrer dans cette, je dirais, attitude pénitentielle fondamentalement, par rapport à des petites choses qu'on n'aurait jamais pensé confesser au confessionnal. Petites choses de la vie toute simple que l'autre perd, qu'on repère aussi progressivement, qui fait qu'on va arriver à réformer de fait sa vie. Je pense qu'il y a des couples, c'est l'homme ou la femme qui ont de plus en plus de difficultés à vivre l'acte conjugal. Donc là, la chose est évidente. Et je suis frappé de voir que dans certains couples, il y a une incapacité d'en parler, une incapacité de dire la difficulté, parce qu'on a peur du jugement de l'autre, parce qu'on se culpabilise soi-même. Quand il y a la culpabilité des deux côtés, que personne n'ose, avoir cette attitude de transparence un peu, je me demande si on n'arrive pas à un blocage, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre?
Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et l'idéal, ce serait de pouvoir piloter et de pouvoir tout maîtriser. Et moi, je crois que dans l'exercice de la vie de nos couples, il y a quand même vraiment une part d'abandon et une part de risque. Et je crois que vraiment, dans ce sacrement de mariage, il y a vraiment l'exercice de la grande pauvreté de ce que nous sommes. Et que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Qu'il faut accepter de prendre des risques, c'est-à-dire d'accepter que l'autre, dans la profondeur de votre âme et dans la profondeur de votre propre pauvreté, que l'autre puisse vous faire grandir en vous acceptant comme vous êtes. Et je crois que c'est vraiment un exercice d'abandon et vraiment un exercice de compassion. C'est de dire, eh bien, je fais confiance à l'amour de l'autre pour moi et je me présente dans ma pauvreté en espérant que cet amour qui est toujours fécond dans notre couple soit vraiment l'amour du pardon. Et donc, il faut y aller, quoi. Parce que je ne peux pas tout maîtriser.
Juliane, vous réagissez?
Je crois que c'est certain. vraiment des sujets aussi difficiles, et c'est important d'avancer en reconnaissant ses fragilités et sa vulnérabilité. Je crois que là, il y a une grande clé, et que quelquefois, quand le dialogue n'est plus possible, il faut peut-être se faire aider, un remède du trois, comme on dit, et le troisième, ça peut être bien sûr le Seigneur, ou bien un accompagnateur. Ne pas rester dans un silence qui enferme, en tous les cas. Ouais, il faut vigiler là-dessus.
Vous voulez un chant? On touche des sujets délicats, là. Hein. Chacun... Oui.
En fait, c'est beaucoup le dialogue qui est important par rapport à toutes les souffrances qu'on vit. Même... moi, je vois bien quand j'ai envie de tourner le dos à Philippe et de ne plus lui parler, je me dis, c'est justement là que c'est intéressant de creuser parfois en face de Dieu d'abord pour voir quelle est la pourquoi, parce qu'à une époque j'attendais que ça se passe en me disant bon je vais attendre que le malaise parte et puis voilà, et en fait je m'aperçois qu'il y a des clés dans les choses qui nous font souffrir, justement de pouvoir regarder en face ce qui nous fait souffrir et puis d'attendre le moment pour en reparler, mais ne pas passer sur les choses qui font souffrir, parce qu'autrement on accumule et après ça devient impossible de parler, quoi. Donc finalement, d'établir le dialogue à chaque souffrance, alors c'est pas drôle, mais en même temps, on s'aperçoit que souvent, c'est libérateur, quoi.
Écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour laisser le temps à l'adoration. Je suis disponible pour des confessions, mais pas pendant le temps du repas, quand même. J'apprends, mais je confesse mes limites, ma faiblesse. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Père.